Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Les saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, bien chers amis, sur le polycopier qui contient les commentaires du Père de l'Église des chapitres 11 à 15 de Saint-Luc, nous en sommes à la page 26. Saint-Luc chapitre 13 verset 10. Nous commençons par les en bas de la page 26 verset 10 à 17. Jésus enseignait dans les synagogues les jours de sabbat, et voici qu'il y vint une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, ne pouvait pas du tout regarder en haut. Jésus, la voyant, l'appela auprès de lui et lui dit « Femme, vous êtes délivrée de votre infirmité. » Et il lui imposa les mains, et aussitôt elle redevint droite et elle glorifiait Dieu. Mais le chef de la synagogue prit la parole, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat. Il disait à la foule, « Il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler. Venez donc en ces jours-là et faites-vous guérir et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit en disant, « Hypocrite, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne délie pas son bœuf ou son âne de la crèche, ne les mène pas à boire ? Et cette fille d'Abraham que Satan avait liée, voilà 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat ?» Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires rougissaient, et tout le peuple se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il accomplissait. On voit ici dans ce texte un peu dur, contre les pharisiens, on voit l'hypocrisie des pharisiens, donc qui filtrent le moucheron et qui avalent le chameau. Alors voyons un petit peu ce que disent les pères de l'Église. Nous sommes à la page 27. Donc, je commence par se demander ce qu'était cet esprit d'infirmité. Cette femme était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Donc, elle était toute courbée. Qu'est-ce que ça représente ? Bien, les pères expliquent que ça représente nos crimes et la transgression d'Adam, c'est-à-dire c'est le péché originel qui courbe l'homme vers le sol. Du coup, ses yeux étant dirigés vers le sol, il ne peut plus voir la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ qui resplendit. Il ne peut plus voir la beauté de la création du bon Dieu et à partir de cette création remonter vers Dieu. Il va au contraire voir les choses de la terre et tenter de suivre celui qui est le prince de ce monde, à savoir le démon. Donc à cause de cette transgression d'Adam, Dieu nous abandonne par la mort, dans le sens que la mort est une conséquence du péché originel. Mais Dieu donne ce pouvoir au démon de telle sorte que l'âme écrasée par le poids de cette adversité vient se réfugier en lui. C'est-à-dire que lorsque l'homme est vraiment complètement isolé et tombé au fond du puits en quelque sorte, qu'il ne peut plus s'en sortir par lui-même, bien l'homme, même celui qui s'est éloigné de Dieu pendant longtemps, est obligé de revenir vers Dieu. Donc Dieu permet parfois des grosses infirmités, des maladies par exemple, pour aider les gens à se rapprocher de lui. Parce que tout va bien, on a tendance à oublier le bon Dieu, mais lorsque vous êtes, pour reprendre le même exemple dont je viens de parler, lorsque vous êtes tombé au fond d'un puits, vous ne pouvez pas vous en tirer par vous-même, vous êtes obligé d'appeler au secours le bon Dieu. Et souvent, tant qu'on n'est pas tombé au fond du puits, on essaye de s'en tirer par soi-même. On pense qu'on est capable de faire les choses comme un grand et on ne veut pas rechercher le bon Dieu. Au contraire, lorsque tout va mal, à ce moment-là, on est obligé de se rapprocher de Dieu. La femme, donc, était liée par Satan, comme enchaînée, de telle façon que sa tête semblait fixée à ses genoux. Par sa puissance, le Christ casse cette chaîne et la femme peut se relever. Le Christ est venu pour détruire donc les œuvres du démon. Donc cette fille d'Abraham représente aussi, alors qu'elle est liée par l'esprit qui la rend infirme et qui l'empêche de se relever, parce qu'elle est toute courbée, ça représente aussi la synagogue. Et notre Seigneur Jésus-Christ, en prenant notre humanité, en venant comme Messie, va casser pardon, cette chaîne. Et va permettre à cette synagogue de se redresser et de devenir l'Église catholique. Voyons d'autres textes écrits par les pères. Saint Basile le Grand, la tête des animaux est tournée vers le sol, alors que la tête des hommes regarde le ciel, car il est fait pour chercher les choses d'en haut et percer de ses yeux à travers les choses terrestres pour les dépasser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des hommes qui ont un esprit animal et des hommes qui ont un esprit céleste. Il y a des hommes qui ne pensent qu'aux choses d'ici-bas, qui ne pensent qu'aux choses matérielles et qui sont donc incapables de relever les yeux, la tête et l'intelligence vers le ciel. Et il y a ceux qui, au contraire, ont compris que les choses les plus importantes sont les choses célestes. On ne peut pas être heureux tant que notre regard est tourné vers le sol, tant que notre regard est tourné vers les choses d'ici-bas, les choses de ce monde, l'adoration des choses de ce monde, eh bien, nous ne pouvons pas nous élever. Au contraire, lorsque je relève les yeux vers le ciel, que je cherche les choses d'en haut, à ce moment-là, je peux percer de mes yeux les choses terrestres pour les dépasser et comprendre qu'il y a quelque chose au-dessus des choses terrestres qui est bien plus importante. Alors, notre Seigneur a un terme fort contre les pharisiens. Il les traite d'hypocrites. L'hypocrite est donc celui qui assume un caractère qui n'est pas le sien. C'est celui qui porte quelque chose dans son cœur, mais qui montre autre chose au monde. Donc, l'hypocrite, basiquement, c'est un menteur. Il se ment à lui-même, il ment aux gens qui sont autour de lui en se présentant comme quelque chose, quelqu'un qu'il n'est pas. Alors voyons un petit peu les commentaires maintenant de Saint Grégoire le Grand, qui dit que le figuier stérile, il a été parlé auparavant, le figuier stérile représente la femme courbée en deux. Et dans les deux cas, c'est la même image. Le figuier stérile est représenté par... représente la synagogue. La femme courbée en deux représente également la synagogue. Rappelez-vous l'épisode du figuier qui ne donnait pas de fruits, c'est au verset 6 du chapitre 13. Et donc les pères font une analogie, une similitude entre le figuier qui ne donne pas de fruits. Notre Seigneur vient chercher du fruit, n'en trouve pas, et donc va faire couper le figuier si ce figuier ne donne pas de fruits. Eh bien, les pères font l'analogie avec cette femme qui est courbée en deux, qui ne peut donc pas voir le ciel à cause du fait que ses regards sont totalement tournés vers la terre, d'ici-bas. Et donc, elle n'arrive pas à se redresser vers le ciel. Donc, la nature humaine, par elle-même, se précipite dans le péché, ne donnera pas le fruit de l'obéissance, ayant perdu son état de droiture. Donc le figuier est préservé, la femme qui se redresse à la parole du Seigneur. Donc le figuier qui retrouve la possibilité, la capacité de donner du fruit, représente la femme dont la chaîne est coupée et qui peut se redresser pour regarder le bon Dieu. Et donc à partir du moment où cette femme qui était courbée en deux, qui redevient droite, qu'est-ce qu'elle fait? Immédiatement, on voit les fruits de la grâce du bon Dieu qui vient la guérir et glorifier Dieu. Donc la glorification marque le changement de la synagogue matérielle à l'Église catholique spirituelle. Donc le figuier représente dans ce cas-là, le figuier qui redonne de nouveau des fruits représente l'Église catholique qui donne le fruit que la synagogue n'a pas voulu donner parce que la synagogue a refusé le Messie. Donc ici une belle phrase des pères. Le pécheur qui ne pense qu'aux choses terrestres est incapable de se redresser pour rechercher les choses du ciel. Il est parfois éclairé par la grâce et voit ce qu'il devrait faire, mais à cause du péché, il est incapable de le mettre en pratique. Et on retrouve la même idée. Tant que j'ai le regard tourné vers les choses d'ici-bas, je ne suis pas capable de chercher les choses du ciel, les choses spirituelles. Et on voit très bien dans le monde moderne, c'est comme ça que ça se passe. Donc le monde moderne va chercher à couvrir les âmes de choses matérielles pour que, à cause du poids de ces choses matérielles, elles ne puissent plus redresser la tête. Et donc elles soient tentées de ne regarder que ces choses matérielles. On lui met en quelque sorte sur la tête un poids énorme de choses matérielles. Et à cause de ce poids énorme sur la tête, elle baisse la tête et elle ne voit que ces choses matérielles. Et à ce moment, le démon du monde moderne va essayer de nous faire croire que ces choses matérielles représentent tout ce qu'on cherche. Et au contraire, une fois qu'on a compris qu'il y a quelque chose au-dessus de ces choses matérielles et qu'on se coupe de ces choses matérielles, du coup, le poids qui était sur notre tête est enlevé, on peut redresser la tête, la lever vers le ciel, et à ce moment-là, découvrir un autre monde complètement différent. Et on voit la stupéfaction des gens qui se convertissent aux retraites, entre autres, et qui découvrent avec effarement qu'ils ont perdu leur temps pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de leur vie, parce qu'ils ne se sont préoccupés que des choses matérielles et qu'ils ont oublié les choses les plus importantes, à savoir les choses du ciel. Et ensuite, on a un texte de saint Ambroise qui résume bien tout ce que je viens de vous expliquer à partir des autres pères. Le figuier, donc, qui ne donne pas de fruits, symbolise la synagogue. La femme redressée est une figure de l'Église. Mais de même, le figuier qui retrouve la possibilité, le pouvoir de donner du fruit, représente elle aussi l'Église. Alors qu'au contraire, la femme qui est incapable de se redresser représente la synagogue. Donc le figuier stérile est à la femme courbée vers le sol, ce que le figuier qui donne du fruit est à la femme qui peut enfin se redresser, redevenir droite et qui se met à glorifier Dieu. Donc, la femme redressée est une figure de l'Église qui, ayant rempli la mesure de la loi et de la résurrection, est maintenant élevée dans l'éternel lieu de repos, ne peut plus suivre nos faibles inclinations. Et donc, il faut faire attention à ces choses-là, surtout dans l'éducation des enfants, pour ceux qui m'écoutent, qui ont des enfants. Si les enfants sont constamment sous le poids des choses matérielles, comment voulez-vous que leurs âmes puissent monter vers le bon Dieu? Je prends souvent l'exemple d'un oiseau qui ne peut pas voler parce qu'il a un fil à la patte. Ces jeunes enfants qui se retrouvent dès 10 ans, par exemple, avec un téléphone portable, avec une ligne internet privée, ou presque, avec un ordinateur connecté à internet dans leur propre chambre à 10-12 ans. Mais comment voulez-vous que ces enfants puissent s'élever vers le bon Dieu? C'est impossible, parce que leur Dieu va devenir l'ordinateur, leur Dieu va devenir le téléphone portable, et ils vont complètement oublier le vrai Dieu. Ils vont tomber dans l'idolâtrie en adorant les choses matérielles qui peuvent leur apporter des plaisirs immédiats. Et ils vont complètement oublier le fait qu'ils ont une âme qui est faite pour des plaisirs beaucoup plus subtils, beaucoup plus élevés, mais qui ne sont pas immédiats. L'ordinateur et leur téléphone portable peuvent nous aider à atteindre des choses matérielles immédiates, tout de suite. On n'a pas à attendre. Par contre, le ciel, pour arriver au ciel, il faut attendre. On ne va pas au ciel ici-bas. Il faut vivre en état de grâce, mourir en état de grâce. Et pour mourir en état de grâce, il faut se préparer à une bonne mort afin de pouvoir atteindre le ciel. Autre citation, c'est saint Bède qui commente le verset 16. Cette fille d'Abraham que Satan avait liée voilà 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? Donc, voilà un texte de saint Bède. La fille d'Abraham, dont parle notre Seigneur, représente l'âme fidèle, ou l'Église rassemblant les nations dans l'unité de foi. Cette femme, donc, qui vient d'être libérée de ses affections, qui s'est redressée miraculeusement, est aussi représentée par le bœuf et l'âne détaché et conduit pour boire. Donc, tant que l'âme, que le bœuf et l'âne, pardon, sont attachés, ils ne peuvent pas aller s'abreuver. Il faut que le propriétaire les détache et les conduise au point d'eau pour qu'ils puissent se rassasier. Oui, donc, il faut bien comprendre que ce texte qui nous montre le redressement de cette femme qui est malade, qui nous montre qu'un figuier peut redonner du fruit, même s'il a été stérile pendant de longues années. Ici, on parle d'une femme qui a été pliée en deux pendant 18 ans, c'est énorme. Eh bien, ceci montre que lorsque la grâce du bon Dieu touche une âme, quel que soit l'état dans lequel soit tombée cette âme avant d'avoir été touchée par notre Seigneur Jésus-Christ, l'âme peut se redresser et le figuier peut commencer à redonner du fruit, à condition que le jardinier ait bêché un peu autour de l'arbre et mis du fumier pour que l'arbre puisse reprendre un peu plus de force et donner du fruit. Donc la conversion est toujours possible, c'est le thème de cette partie de l'évangile. La conversion est toujours possible, même après 18 ans, donc un temps considérable. Elle arrive à s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette femme était incapable de regarder en haut, donc incapable de se rapprocher des choses spirituelles. Elle représente donc les gens qui sont trop attachés au bien de ce monde. Eh bien, elle accepte de chercher notre Seigneur Jésus-Christ. Alors notre Seigneur qui la voit l'appelle et lui annonce qu'elle est délivrée de son infirmité. Il coupe la chaîne et du coup, elle peut monter vers le bon Dieu. Vous voyez? Et c'est ça le drame du monde moderne, c'est que les âmes modernes sont tellement alourdies par les choses matérielles qu'elles sont incapables de s'élever aux choses spirituelles. Je vois par exemple la difficulté qu'ont les jeunes, surtout quand ils viennent en retraite, de se couper tout simplement du téléphone portable. Là où je prêche, à Lederg, dans l'Aveyron, pas très loin de l'endroit où j'habite, eh bien c'est un fond de vallée, c'est magnifique, c'est une vieille bâtisse qui a été très bien rénovée. Un ancien moulin au bord d'une rivière, dans un coin extrêmement calme, il y a la forêt, des champs, des vaches et tout ce qu'il y a, eh bien, Internet ne passe pas là, parce que c'est trop reculé par rapport au village de Lederg. Eh bien, j'ai vu de nombreux jeunes qui sont malheureux, parce qu'ils arrivent et ils peuvent pas envoyer de messages, ils sont obligés de se couper d'Internet. Je suis obligé, quand je commence les retraites, première chose que je fais, j'explique que je sors mon téléphone portable de ma propre poche et je monte ce téléphone portable et je dis voilà le grand ennemi de la retraite. Il faut vous couper ce machin-là. Donc vous allez me donner vos téléphones portables si vous avez peur, si vous êtes tenté de commencer à vous connecter à Internet avec le téléphone portable, à commencer à regarder des tas de choses sur Internet ou à vous communiquer avec des gens. Donc si vous avez peur, vous me donnez ce téléphone portable. Je le garderai dans mes affaires et je vous le rendrai samedi à la fin de la retraite. Maintenant, si vous êtes capable et certain de ne pas être tenté de communiquer avec le téléphone portable, vous pouvez le garder. Mais dès que je vois que les personnes ont du mal, en général, ils me donnent le téléphone portable pour justement s'obliger à se couper. Et ils me disent au début, c'est une opération très douloureuse, ils ont beaucoup de mal parce que des jeunes qui sont habitués à passer des heures et des heures chaque jour à regarder des bêtises sur le téléphone portable. Quand on voit par exemple le nombre de messages qu'un jeune adolescent de 16 ans envoie par jour, mais c'est ahurissant, c'est des centaines et des centaines de messages parfois en une seule journée. Et parfois ils passent toute la soirée à s'envoyer des messages. Et quand ils sont en retraite, ils sont complètement perdus au début parce qu'ils n'ont plus de téléphone portable. Mais s'ils ne veulent pas me donner de téléphone portable et qu'ils continuent de vouloir l'utiliser, à ce moment-là ils ne peuvent pas faire la retraite, c'est impossible, je suis obligé de leur demander de partir. Alors, passons au verset 18, 19, 20 et 21 du chapitre 13 de Saint-Luc, à la page 27, sur le polycopier. Jésus disait aussi: À quoi est semblable le royaume de Dieu et à quoi le comparerais-je? Il est semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et mis dans son jardin. Il a cru et est devenu un grand arbre, et les oiseaux du ciel se sont reposés sur ses branches. Il dit encore: À quoi comparerais-je le royaume de Dieu? Et il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mêlé dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que tout fût fermenté. Donc là, on a toute une série de comparaisons données par notre Seigneur Jésus-Christ pour et c'est d'expliquer ce qu'est le royaume des cieux. Alors les pères de l'Église font remarquer que le grain de senevé est la plus petite des graines du potager, et c'est une graine qui ne va donner son arôme, la graine de moutarde, la graine de senevé, la graine de moutarde, je crois que c'est la même. Elle est parfois appelée graine de senevé, parfois graine de moutarde. Mais je crois que c'est la même graine en fait. Eh bien, cette graine de moutarde, les pères de l'Église font remarquer que si vous la mettez sous le nez comme ça directement, elle ne sent rien ou pratiquement rien. Il faut l'écraser pour qu'à ce moment-là, elle libère tout son pouvoir. Et les moutardiers doivent commencer par écraser, broyer la graine de moutarde pour qu'elle puisse donner son arôme. Voilà ce que disent les pères de l'Église, c'est la phrase sous le verset 21, page 27. La graine de moutarde est une toute petite chose, mais une fois écrasée, elle libère tout son pouvoir. La foi catholique est au début quelque chose de simple, mais si elle est frappée par l'adversité, il en découle la grâce de la vertu. On ne peut pas aller au ciel en carrosse, on ne peut pas aller au ciel sans la croix. Et donc la croix correspond à l'écrasement de la graine de moutarde. Et à ce moment-là, cette graine de moutarde va pouvoir donner tout son suc, tout son pouvoir. De même, le bon Dieu permet parfois des grosses épreuves qui vont nous rapprocher de lui. Beaucoup de gens sont incapables de se rapprocher du bon Dieu tant qu'ils ne sont pas dans l'épreuve. Une comparaison toute simple, c'est la guerre pour un soldat. Un soldat est en temps de paix, il n'y a pas de problème, on n'arrive pas à voir les différences entre les bons soldats et les mauvais soldats. Mais c'est en période de guerre, on peut voir où sont les bons soldats. Et c'est la même chose ici. Donc la graine de moutarde qui est écrasée, qui libère son pouvoir, représente l'âme qui est frappée par l'adversité et qui, au lieu de se décourager, va utiliser cette adversité pour remonter vers le bon Dieu. Donc la foi est au début quelque chose de simple, mais si elle est frappée par l'adversité, il en découle la grâce de sa vertu. Donc le Seigneur est un grain quand il est placé dans la terre, mais un arbre quand il est monté vers le ciel. Là où il y a le fruit de la graine, là est le Christ. Le Christ nous a sauvés par la croix, par l'adversité. Et donc si je veux être sauvé, il faut que je suive le Christ dans son adversité. Donc si je refuse la croix, je ne peux pas aller au ciel. La croix est la clé littéralement qui ouvre la porte du ciel. Alors les pères de l'Église se demandent quel est cet arbre, ces branches d'arbre. Donc le grain de senevé qui croît, qui devient un grand arbre, et les oiseaux du ciel qui viennent se reposer sur ses branches. Eh bien les branches de cet arbre sont les différentes doctrines sur lesquelles les âmes chastes, volant sur les ailes de la vertu, construisent et se reposent. Donc, pour d'autres pères, cet arbre qui est parti de presque rien, un grain de senevé tout petit, cet arbre représente l'Église, l'Église catholique. L'Église catholique devient un arbre gigantesque avec des grandes branches, et les oiseaux du ciel peuvent venir se reposer sur ces branches. Les oiseaux du ciel, ici, sont les âmes. Les âmes qui cherchent Dieu vont trouver l'arbre qui est l'Église pour pouvoir se reposer et continuer leur long chemin qui les mène au ciel. Donc, si je ne cherche pas refuge et repos dans les branches de l'arbre qui est l'Église, ben je ne peux pas aller au ciel, parce que la porte d'entrée du ciel passe par l'Église catholique. Il n'y a pas de salut en dehors de l'Église catholique. Ô arbre stérile, dit saint Augustin, ne te moque donc point si tu es épargné. La hache a été éloignée pour un moment, mais il ne faut pas pour cela que tu t'estimes à l'abri de tout danger. Elle reviendra et tu seras coupé. Rappelez-vous ce que notre Seigneur Jésus-Christ a déjà expliqué auparavant. Si le figuier ne donne pas de fruits, eh bien, le bon Dieu va avoir le droit, le jardinier va avoir le droit de dire, mais pourquoi cet arbre occupe-t-il encore le sol ? Et avec la grâce du bon Dieu, cet arbre, c'est l'âme qui ne donne pas de fruits, peut changer, peut avec l'amour de la croix, écraser la graine de senevé, c'est-à-dire la foi catholique qui est en elle, l'écraser pour que la foi puisse donner tout son arôme. Autre texte très beau de saint Paulin. Que le céleste et soigneux jardinier vienne visiter le jardin de mon âme, qu'il en fasse sa propriété, qu'il y habite, comme en celui où il enseigna, celui où il pria et celui où il ressuscita. qu'il commande aux nuées du ciel de laisser tomber sur lui leur rosée, qu'il en éloigne les vilaines passions de la chair, qu'il en chasse les bêtes qui détruisent les fruits. Quelle joie pour le serviteur de voir le maître aimer à se promener dans son jardin et cueillir les fruits de l'arbre qu'il a planté lui-même. Et c'est une très belle comparaison des pères que notre Seigneur Jésus-Christ va préparer là, avec son texte. Notre âme est comme un jardin. Et je suis le jardinier de ce jardin. Je ne suis pas le propriétaire du jardin de mon âme. Je suis celui qui doit garder, qui doit faire fructifier le jardin de mon âme. Donc il faut préparer la terre, il faut enlever tous les obstacles, les pierres, les chenilles, les insectes qui vont manger les graines, et vérifier que la graine donne racine et donne du 60 pour, du 30%, du 60%, du 100%. Donc, rappelons-nous cette comparaison qui est très belle. Notre âme est comme un jardin. Et c'est le bon Dieu qui va venir planter ce qu'il veut dans le jardin et où il veut et comme il veut. Il va planter des fleurs pour la beauté du jardin, mais il les met où il le désire. Il met la fleur qu'il veut. J'ai déjà expliqué tout ça parce que c'est un point très important dans l'esprit de l'Église. Notre âme est un jardin, mais c'est Dieu qui a la clé de la porte de ce jardin. Et le jardin doit être organisé selon la volonté divine et pas selon notre volonté. Et donc si le bon Dieu a voulu mettre des petites fleurs dans le jardin, des fleurs très discrètes, des petites violettes par exemple, eh bien, il faut accepter, même si j'aurais souhaité avoir d'autres fleurs que la violette dans mon jardin. Parce que la violette c'est un peu trop petit. J'aurais voulu être une fleur beaucoup plus grande. Le bon Dieu a décidé qu'il n'y aurait que des violettes dans mon jardin. À partir du moment où j'ai des violettes dans mon jardin, parce que le bon Dieu a voulu que ce soit ça qui soit dans mon jardin, à partir du moment où je protège ces violettes, qu'elles sentent bon, même si elles sont toutes petites, qu'elles donnent du fruit, le fruit qu'elles doivent donner en tant que violettes, à ce moment-là, Dieu est content. Et si au contraire, je refuse les violettes que le bon Dieu veut trouver dans mon âme, et je vais chercher autre chose que le bon Dieu n'a jamais voulu que cette chose soit dans mon âme, bien à ce moment-là, le bon Dieu ne sera pas content avec moi. D'accord ? Donc, il faut demander au bon Dieu de venir se promener dans mon jardin, le jardin de mon âme, pour me dire ce qu'il faut changer dans l'âme. Il faut faire ça à chaque communion, à chaque fois que nous communions. Notre Seigneur Jésus-Christ vient dans mon âme, par la Sainte Eucharistie, et il faut qu'il vienne dans mon âme, et une fois qu'il est dans mon âme, il faut lui dire, voilà mon Dieu, vous êtes chez vous ici, parce que c'est vous qui m'avez donné cette âme, j'en suis le dépositaire, j'en suis le gardien, dites-moi ce qu'il faut changer. Et vous accompagnez notre Seigneur Jésus-Christ dans le jardin de votre âme, dans les parterres du jardin, et le bon Dieu va vous indiquer, voilà, là, c'est pas droit, la bordure n'est pas droite, la bordure est cassée, la bordure est tombée, et là, il y a des mauvaises herbes qui poussent au milieu des bonnes plantes, et ça, c'est pas bon pour les bonnes plantes, donc il faut arracher ces mauvaises herbes. Et là, la terre est trop dure, donc il va falloir la bêcher pour la rendre souple, meuble, pour pouvoir y planter des bonnes semences. Donc c'est le bon Dieu qui va nous indiquer ce qu'il faut. Il va pas faire tout le travail pour nous, il faut pas croire que le bon Dieu va faire tout le travail et que nous n'aurons plus rien à faire. Non, le bon Dieu exige une participation de chacun d'entre nous. C'est lui qui choisit les graines qu'il veut voir fructifier dans notre âme, mais il faut une participation de notre âme à la fructification de ce jardin. Il y a une très belle phrase en bas de la page 27, une très belle phrase de Saint Grégoire le Grand. Il y a cette différence entre les joies des sens et celles de l'esprit, que celle-là, quand on ne les possède pas, excite de violents désirs, le dégoût quand on les possède. Au contraire, les joies spirituelles n'attirent pas quand on ne les possède pas. Et quand on les possède, elles enflamment le désir. Et on veut les posséder plus abondantes. Ça veut dire quoi ça? C'est une belle, belle phrase. Ça veut dire que on n'a jamais trop de joies spirituelles. Par contre, on est très vite dégoûté des joies sensuelles, des joies sentimentales, des joies sensuelles. Parce que l'âme se fatigue très vite de ces joies sensuelles. Au contraire, plus on a de joies spirituelles, plus on est léger. Parce que la joie céleste, la joie du ciel, la joie de l'esprit, élève l'âme vers le bon Dieu. Au contraire, une trop grande quantité de joies sensuelles, de joies sensibles, alourdit l'âme, et l'âme va tomber comme un oiseau qui ne peut pas voler et donc sera incapable de monter vers le bon Dieu. Et plus on a de joie sensuelle, plus on est dégoûté. Plus on a de joie spirituelle, plus au contraire, notre cœur est exalté vers le bon Dieu. Il eut faim, car rien ne peut rassasier la volupté qui se donne libre carrière. Il a toujours faim, celui qui ne sait pas se nourrir des aliments éternels. Et bon, c'est une allégorie ici que présentent les pères de l'Église, mais elle est très belle. Celui qui recherche les aliments éternels trouvera la paix, dès ici-bas sur la terre. Celui qui ne cherche que les aliments sensibles de ce monde, eh bien évidemment, sera obligé de porter un sac beaucoup trop lourd pour lui et va s'enfoncer comme dans un sable mouvant, sera incapable de s'en sortir tout seul. On voit très bien comment le démon donc, nous pousse à ne nous préoccuper que des choses sensuelles et d'oublier les choses spirituelles. Donc, ne se préoccuper que des joies des sens et oublier les joies de l'esprit. Alors, au verset 21, notre Seigneur Jésus-Christ nous parle du levain. Bon, après avoir expliqué le grain de sénevé, il parle du levain. Une femme a pris et mêlé dans trois mesures de farine, chose que tout fait fermenter. Bon, vous mettez la farine avec de l'eau, mais vous ne mettez pas de levain, et ça ne donnera pas du pain, hein, parce qu'il va, la farine va être incapable de lever. Au contraire, si vous mélangez le levain à la farine, à ce moment-là, la farine va pouvoir lever et pouvoir se transformer en pain. Donc voyons ce que disent les pères, ici c'est saint Ambroise, en haut de la page 28, sur le levain de la femme qui cache le Seigneur Jésus dans les secrets de nos cœurs. Jusqu'à ce que la chaleur pénètre nos coins les plus secrets, comme le Christ nous dit qu'il fut caché dans trois mesures. C'est le verset 21. Une femme a pris et mêlé le levain à trois mesures de farine. Donc, il est raisonnable de croire, disent les pères, que le Fils de Dieu fut caché par la loi, voilé par les prophètes, manifesté par les prédications de l'Évangile. Alors, qu'est-ce que veut dire cette image? Bien comprendre cela quand on parle donc du levain qui se cache dans trois mesures de farine et qui permet la fermentation de toute la pâte. En fait, c'est le mystère de l'incarnation qui est ici désigné. Notre Seigneur Jésus-Christ va cacher en quelque sorte sa divinité derrière notre humanité. Vous voyez? Donc l'humanité est à la farine, ce que la divinité est au levain. C'est le levain qui fait lever la pâte. Donc, la farine par elle-même ne peut rien faire. Donc il faut mélanger la farine au levain pour que le levain fasse lever la pâte et transforme la pâte en pain. Et bien, c'est la même chose avec le mystère de l'incarnation. Bon. Dans le mystère de l'incarnation, qu'est-ce que c'est que le mystère de l'incarnation? C'est le mystère par lequel notre Seigneur Jésus-Christ prend une chair humaine sans cesser d'être Dieu. Deuxième personne de la Sainte Trinité s'incarne, c'est qu'elle prend une chair humaine qui va être toutefois toujours unie à la divinité. Eh bien, c'est la divinité qui va permettre à cette chair de lever de plus en plus pour amener tous les gens au pied du calvaire. Notre Seigneur Jésus-Christ, donc lui-même, nous a enseigné que ce levain est l'enseignement spirituel de l'Église. C'est l'âme qui se dilate et qui monte vers le bon Dieu. Oui, donc on voit ici le symbole de l'incarnation. Alors les pères donnent d'autres explications en disant que cette femme qui s'occupe de préparer du pain, elle représente l'âme. Les trois mesures sont les trois parties de l'âme, la raison, les affections et le désir. Elle symbolise également la connaissance du Père, du Fils et du Saint-Esprit que la femme, c'est-à-dire la sagesse divine et le Saint-Esprit, infusent dans nos âmes. Alors, c'est des explications symboliques. Donc on voit déjà avec le chiffre 3, les trois mesures de farine. En général, lorsque l'Évangile utilise le chiffre 3, très souvent c'est la Sainte Trinité qui est représentée derrière ce chiffre 3. Donc la Sainte Trinité s'infuse dans nos âmes pour faire lever notre âme et la monter vers le bon Dieu. Saint Bède le Vénérable explique que par le levain est symbolisé l'amour qui enflamme et remue le cœur. La femme, c'est-à-dire l'Église, cache le levain de l'amour dans trois mesures, car elle nous offre l'amour de Dieu pour nos cœurs, nos esprits et nos forces, jusqu'à ce que tout soit levé, que l'amour et mue toute notre âme dans la perfection qui commence ici et qui sera achevée au ciel. Oui, donc il faut comprendre dans l'esprit de l'Église que cette fermentation de la farine qui va se transformer en pain prend un certain temps. De même, la transformation d'une âme qui était toute matérielle et qui devient céleste, qui n'était préoccupée que des plaisirs sensibles et qui commence à se préoccuper des choses spirituelles, des choses divines, eh bien ça va prendre un certain temps, ça ne va pas se faire en 5 minutes. Donc il faut donner le temps à la masse, à la farine imbibée d'eau, mêlée au levain, pour que cette farine puisse lever. Ça, encore une fois, ça ne se fait pas en 5 minutes, ça prend un certain nombre d'heures pour que la farine lève avec le levain, et à ce moment-là, on peut la mettre au four, la cuire, et transformer cette masse en pain. Donc, la Sainte Trinité est déjà ici explicitée par ces trois mesures de farine. Donc on voit que le levain, si vous voulez, représente le travail de la grâce, en fait. Par le levain, symbolisé l'amour qui enflamme et remue le cœur. La femme, c'est-à-dire l'Église, cache le levain de l'amour dans les trois grâces. Cet amour, c'est la grâce de Dieu, car elle nous offre l'amour de Dieu pour nos cœurs, nos esprits, nos forces. Jusqu'à ce que tout soit levé, que l'amour est mu dans notre âme, dans la perfection qui commence ici, mais qui sera achevée au ciel. Donc la grâce peut transformer une masse informe en un pain délicieux. Et c'est ce que va faire la grâce du bon Dieu dans notre âme. Lorsque la grâce du bon Dieu rentre dans une âme, l'âme devient toute légère, elle peut commencer à se préoccuper des choses divines. Voyez, on voit très bien comment le démon nous pousse au contraire à nous engluer dans les choses sensuelles. Les choses trop sentimentales qui vont devenir sensuelles, et la limite entre les péchés de sensualité et les péchés d'impureté est une limite très fine. Hein. On commence par les choses sentimentales, et on finit par les choses sexuelles en passant par les choses sensuelles. Donc il y a d'abord trop de sentimentalité, puis trop de sensualité, puis on tombe dans les gros péchés contre la pureté. Avançons avec les versets 22 à 30, page 28. Jésus allait à travers les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Or quelqu'un lui dit, « Seigneur, y en a-t-il peu qui soient sauvés ?» Et il leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas. Et lorsque le père de famille sera entré et aura fermé la porte, vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, ouvrez-nous » Et vous répondant, il dira, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous commencerez à dire, nous avons mangé et bu devant vous, nous avons enseigné sur nos places publiques, et vous avez enseigné sur nos places publiques. Et Jésus dira, je ne sais pas d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Là il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham et Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez chassés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, de l'Aquilon et du Midi, et se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, ce sont les derniers qui seront les premiers, et ce sont les premiers qui seront les derniers. Ici, on trouve un passage très important du livre de l'Évangile, donc qui aborde ce qu'on appelle le petit nombre relatif des élus. C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qu'on parle. Les modernistes ne peuvent pas supporter cette doctrine du petit nombre de relatif des élus. Et même parfois dans la tradition, on trouve des prêtres qui sont imprégnés de libéralisme et de modernisme et qui ne veulent pas trop qu'on parle du petit nombre relatif des élus. Attention, il faut bien comprendre le terme, le petit nombre relatif des élus. Ça veut dire que le nombre des élus est extrêmement grand, mais que par rapport au nombre de ceux qui se donnent, il est petit. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit en plusieurs autres endroits. Ici, il prend l'exemple de la porte. Il a parlé de la voie large et la voie large qui mène à la perdition, combien nombreux sont ceux qui la prennent, et de la voie étroite et resserrée qui mène au salut, et combien peu nombreux sont ceux qui la prennent. Ici, il parle de la porte étroite, c'est la même idée, si vous voulez. C'est pour ça que les disciples ont demandé, « Seigneur, y en a-t-il peu qui soient sauvés ?» Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer, ne le pourront pas. Ça, c'est
le grand nombre qui malheureusement refuse cette porte étroite, le chemin étroit et resserré, c'est le chemin de la croix qui mène au salut et se précipite par la voie large qui mène à la perdition. Quand on entend ce que disent les pères de l'Église sur ces sujets, ça laisse rêveur. Dans ce passage que je viens de commenter là, un peu plus loin, c'est au verset 28, notre Seigneur parle de ce lieu pour les ouvriers d'iniquité, le lieu des pleurs et des grincements de dents. Mais ça, c'est l'enfer. Et notre Seigneur Jésus-Christ en parle extrêmement souvent. Il en parle 63 fois dans l'Évangile, directement ou indirectement. Quand on pense que Bergoglio a eu le culot de nier l'existence de l'enfer et dire que l'enfer n'existait pas, c'est ahurissant. Quand on voit les textes de l'Église, quand on parcourt les psaumes, les livres sapientiaux, les prophètes, il est question très souvent de ce ver qui ronge et qui ne meurt pas, du feu qui ne s'éteindra pas. On trouve ça ici dans certains textes du prophète Isaïe. Qui de nous séjournera dans le feu dévorant? Qui de nous séjournera dans les flammes éternelles? Alors, je peux vous citer quelques exemples de ces textes qui complètent le texte que je viens de vous lire, là qu'on trouve en Saint-Luc chapitre 13. Déjà, la cognée est à la racine des arbres. Tout arbre ne produisant pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Notre Seigneur tient le van en main, il va purifier son air et serrer son blé dans le silo, et quant à la paille, il la brûlera dans un feu inextinguible. Puis il y a ce texte très, très connu, si ton œil droit te scandalise, arrache-le, jette-le loin de toi, mieux vaut pour toi perdre l'un de tes membres et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si c'est ta main droite qui te scandalise, coupe-le, coupe-la et jette-la au loin, mieux vaut pour toi perdre l'un de tes membres que ton corps tout entier n'aille dans la géhenne. Entrez par la porte étroite. Elle est large, la porte est spacieuse, la voie qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Oui, c'est un texte parallèle à celui que je viens de Saint-Luc. Elle est étroite, la porte est resserrée, la voie qui mène à la vie. Il est peu qui la trouvent. On trouve d'autres textes presque parallèles à celui-là, par exemple dans Saint-Matthieu. Quant aux fils du royaume, on les jettera dans les ténèbres extérieures. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Exactement les mêmes choses. N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps sans avoir la puissance de tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans la géhenne. Je conseille beaucoup à ceux qui ont du mal avec cette doctrine, qui est une doctrine fondamentale. Le petit nombre relatif des élus est très important. Notre Seigneur Jésus-Christ le dit expressément plusieurs fois dans l'Évangile. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Il parle de la voie large qui mène à la perdition, la voie étroite qui mène au salut. Je vous conseille beaucoup de vous procurer le livre « Du nombre des élus » de José Ricard Torrens, dont j'ai déjà parlé, qu'une traduction d'Arnaud de Lassus. C'était publié aux éditions Saint-Rémy. C'est un livre classique, un vieux livre qu'on utilisait beaucoup pour les retraites auparavant, que je continue d'utiliser, conseiller beaucoup pour les retraites. Et il y a tout un passage, je vais vous en lire certains passages ici, mon introduction, c'est tout chapitre 2 de ce livre du nombre des élus, qui est un livre, encore une fois, très bon, qui nous aide, surtout en période de carême. Et trouvez-vous ce livre, je vous conseille beaucoup pour ceux qui m'écoutent, pendant le carême, de lire soigneusement ce livre. C'est un petit livre, hein, c'est pas grand, il y a peut-être 270 pages, quelque chose comme ça. Et il y a tout un chapitre, chapitre 2, sur la question du nombre. Donc je vous lis l'introduction de ce chapitre. À première vue, dit le père Ricard Torrens, donc ça c'est un livre qui est un grand, grand classique, qui n'est pas très ancien. Je crois qu'il a été écrit en 1965, publié en 1965. Donc, c'est déjà après la mort de Pilouze, hein, mais le livre est excellent. À première vue, il peut paraître inutile et inconvenant de débattre la question du nombre de ceux qui se sauvent. Mais essayer de coordonner nos opinions avec les données de la révélation n'est pas simple curiosité ni simple étude théorique. Les saints en ont longuement traité, ont écrit et prêché sur le sujet, ont constaté les fruits salutaires que l'on obtient quand on parle de ce terrible problème. En définitive, Nous soutenons les propositions suivantes. Le Seigneur reconnaît les siens. Beaucoup se sauvent. Là, il y a ce texte de l'Apocalypse. Je vis une grande foule que personne ne pourrait compter. De toute nation, tribu, peuple et langue, nous dit Saint Jean parlant des élus. Rappelons-nous seulement que, selon certains historiens, le nombre des martyrs fut de plusieurs millions dans les trois premiers siècles de l'Église et que tous les saints de cette époque ne furent pas martyrs. De plus, l'Église n'était alors qu'un petit noyau. Elle sera certainement très nombreuse dans le ciel, la couronne qui chantera les louanges de la Sainte Trinité. Il appartient à chaque homme de faire partie des bienheureux, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Une phrase magnifique de saint Paul. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc il serait faux, attention, de préciser que le nombre de ceux qui se sauvent est tout petit. L'Église n'a jamais prêché ça. L'Église a toujours prêché le nombre, le petit nombre relatif des élus. C'est-à-dire, le nombre des élus est très important. Beaucoup se sauvent. Mais, troisième point, très nombreux sont ceux qui se damnent. Donc, à cause des textes que je viens de vous citer ici de notre Seigneur Jésus-Christ, le nombre de ceux qui se damnent est plus important que le nombre de ceux qui se sauvent. Donc, beaucoup sont ceux, donc je répète les propositions qui explique la doctrine de l'Église. Première proposition, le Seigneur reconnaît les siens. Deuxième proposition, beaucoup se sauvent. Troisième proposition, très nombreux sont ceux qui se damnent. Quatrième proposition, la doctrine selon laquelle tout le monde se sauve est condamné. C'est une doctrine qui est la doctrine moderniste qui dit que tout le monde va au ciel ou pratiquement. Ce qu'on appelle le latitudinarisme. L'latitudinarisme, c'est la doctrine fausse qui consiste à ouvrir tellement large les portes du baptême de désir que pratiquement tout le monde se sauve. Le syllabus, par exemple, de Pie IX, un texte fondamental très important du pape Pie IX, 1864, a condamné la proposition 17 qui dit « Au moins doit-on bien espérer du salut éternel de tous ceux qui ne vivent pas dans le sein de la véritable Église de Christ. » C'est condamné par l'Église. Donc comme le dit saint Prosper, si l'un se sauve, c'est par la grâce du Sauveur. Si d'autres se perdent, c'est par leur faute. Donc personne ne peut dire, je suis en enfer, c'est la faute du bon Dieu qui ne m'a pas donné les grâces. Non. Vous êtes au ciel, c'est grâce à Dieu. Vous êtes en enfer, c'est votre faute. Le concile de Quercy enseigne la même chose. Le Dieu Tout-Puissant veut le salut de tous les hommes sans exception, bien que tous ne se sauvent pas. C'est-à-dire, saint Thomas explique de cette façon, en disant de volonté antécédente, Dieu veut sauver tous les hommes, de volonté conséquente, seul un petit nombre se sauve, un petit nombre relatif se sauve. Ceux qui se sauvent, c'est par la grâce du Seigneur. Ceux qui se perdent, c'est par leur faute. L'Église a toujours laissé libre cette question, dit le père Ricard Torrens. Il n'y a aucun décret dogmatique sur ce point. Dans l'une des oraisons du Missel, nous récitons Deus qui soli ex conitus est numerus electorum in superna felicitate locandus. Cette oraison, en fait, c'est une oraison qu'on dit pendant le carême. C'est l'oraison pour les vivants et les défunts. Au Dieu qui seul connaissait le nombre des prédestinés au bonheur éternel. Et elle nous rappelle son infinie miséricorde. Deus cuius misericordiae non est numerus et bonitatis infinitus est tesorus. Ô Dieu, dont la miséricorde est innombrable et dont le trésor de bonté est infini. Donc Dieu connaît le nombre des prédestinés. Mais cela n'empêche pas que, humblement, sans donner cette doctrine pour définitive, sans lui accorder aucune note théologique, puisque l'Église ne l'a pas fait, sans imposer à personne notre façon de penser, nous puissions soutenir que le nombre des élus est relativement petit. Si on le compare aux hommes, au nombre des damnés, cela nous appuyant sur des raisons qui seront analysées dans les chapitres suivants. Il suffit de prendre les paroles de notre Seigneur. Quand notre Seigneur Jésus-Christ dit « Large est la voie qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui la prennent. Petit et étroit et resserré, le chemin qui mène au salut éternel, et peu nombreux sont ceux qui le prennent. » Notre Seigneur Jésus-Christ parle d'une porte étroite et d'une porte large, qui parle du lieu des pleurs et des grincements de dents, c'est pas pour rien. Oui. Alors évidemment, toute une série d'arguments, le père Ricard Torrens va reprendre tous ces arguments modernistes qu'on entend tout le temps. Il faut parler d'autre chose, premier argument. Ben non, il faut parler de la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut pas mettre des coussins sous les coudes des gens. Deuxième argument, deuxième objection, Rappeler la doctrine du petit nombre relatif de ceux qui se sauvent et contre l'espérance chrétienne. Ça, on l'entend tout le temps. Vous voyez? Mais il faut rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même en a parlé. Troisième objection, mais c'est du rigorisme et du jansénisme. Pas du tout, c'est l'enseignement de l'Église catholique. Plus de 1000 ans avant les jansénistes, cette doctrine traditionnelle du petit nombre des élus, grand lui-même et innombrable, mais petit relativement au nombre de ceux qui se donnent, n'est pas du tout une doctrine janséniste, parce qu'elle est enseignée par saint Irénée, saint Augustin, saint Jérôme, saint Jean Chrysostome, saint Grégoire le Grand, à tous les pères. Depuis, tous les saints qui en ont traité sont unanimes sur la question du petit nombre relatif des élus. Alors, encore une fois, attention, l'Église n'a jamais enseigné que le nombre des élus est petit. Non, l'Église enseigne que le nombre des élus est petit relativement au nombre des damnés. Beaucoup autres objections qu'on entend aussi très souvent, il est terrible de prêcher la crainte servile. Bien, la crainte servile, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on cherche la contrition parfaite. C'est ce qu'on veut, la contrition parfaite. C'est le regret de ses péchés par amour du bon Dieu. Mais avant d'arriver à la contrition parfaite, on passe par la contrition imparfaite. C'est le regret de ses péchés par peur de l'enfer. Il faut passer par là. Il vaut mieux commencer par là pour arriver à la crainte du bon Dieu, à l'amour du bon Dieu. La contrition parfaite, plutôt que de rater la première porte et finalement de se perdre, parce qu'on oublie les choses importantes. Combien de pauvres pécheurs ne s'élèvent pas plus haut et seront sauvés grâce à cette contrition parfaite? Rappelez-vous ce qu'ont dit les pères, que l'enfer, par exemple, est le grand missionnaire du ciel. Qui sommes-nous, Seigneur, s'écrie saint Augustin, pour que vous nous aimiez au point de nous menacer de l'enfer, et si nous ne vous aimons pas. Autre argument, mieux vaut ne prêcher et enseigner que l'amour et non les vérités éternelles du péché et de l'enfer. Eh bien oui, mais si bien justement, si c'est passé dans l'église de Vatican II, et regardez le résultat. Autre objection, cette doctrine est trop étroite. Eh bien, il faut accuser notre Seigneur Jésus-Christ d'être janséniste à ce moment-là. Autre objection, c'est pousser les âmes au désespoir. En fait, le désespoir, voilà ce qui attend ceux qui ne veulent pas aller à Dieu. Le désespoir, c'est l'enfer. Donc, prêcher le paradis, quand on prêche le petit nombre relatif des élus, on prêche le paradis en fait. Donc, on prêche le contraire du désespoir. Autre objection, il y en a plusieurs qu'analyse le père Ricard Torrens. Peut-il arriver à quelqu'un de se damner pour un seul péché mortel? Eh bien, quelqu'un qui meurt avec un seul péché mortel non pardonné ne peut pas aller au ciel. Donc c'est l'enfer. C'est pour ça que le bon Dieu nous a donné tellement de moyens d'éviter le péché mortel pour éviter de prendre la voie large et prendre la voie contraire, la voie serrée qui monte au ciel. Autre objection qu'on entend très souvent, mais ce serait ainsi l'échec de la rédemption. Et le père Ricard Torrens termine ce chapitre sur la question du nombre des élus par un couplet classique. Moi, pourquoi suis-je né pour me sauver? Il est certain que je dois mourir, il serait triste de me damner et de ne plus voir Dieu, mais c'est possible, et je ris et je chante et je veux me reposer. C'est possible, et je m'attache à ce qui est visible. Que fais-je? Qu'est-ce qui m'occupe? Qu'est-ce qui m'enchante? Je dois être fou, puisque je ne suis pas saint. Donc je conseille beaucoup, encore une fois, pendant le carême, à tous ceux qui m'écoutent, de vous procurer ce livre du nombre des élus de José Ricard Torrens. Vous devez pouvoir l'avoir aussi, non seulement aux éditions Saint-Rémy, mais également aux éditions DFP, aux éditions de la diffusion de la fin des temps. Lisez ce sermon, ce livre magnifique pendant le carême. C'est vraiment une très bonne lecture de carême. Et il cite des tas de textes de l'Écriture sainte, des textes des saints, pour rappeler cette doctrine absolument essentielle. Donc, reprenons en bas de la page 28. Un texte de saint Cyrille, la porte étroite, donc parle notre Seigneur Jésus-Christ, c'est verset 24, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. La porte étroite représente les épreuves et les souffrances des saints, dit saint Cyrille. Ils sont peu en comparaison avec ceux qui sont perdus, mais beaucoup quand unis avec les anges. Les fidèles seuls sont sauvés, et encore pas tous. C'est pas parce qu'on est catholique qu'on est sauvé, attention, hein. C'est pas parce qu'on a la marque du baptême sur notre âme que ça veut dire qu'on va au ciel. Malheureusement, l'immense majorité des catholiques dans le monde moderne vivent en état de péché mortel, c'est clair. La question est donc de savoir si le plus grand nombre est sauvé ou perdu. Certains pensent que le plus grand nombre se sauve par les sacrements que beaucoup reçoivent avant de mourir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça c'est vrai, on peut enseigner ça, que la plupart des gens qui utilisent très régulièrement les sacrements peuvent se sauver et que les gens qui reçoivent surtout avant de mourir, qui font une bonne confession avant de mourir et qui reçoivent le sacrement d'extrême onction ont de grandes chances de se sauver. C'est tout à fait possible, ça oui. Je veux bien aussi enseigner ce qu'enseignaient les anciens, que dans les temps où il y avait l'union de l'Église et de l'État, au Moyen-Âge chrétien par exemple, au siècle de Saint-Louis, je veux bien croire qu'au siècle de Saint-Louis, beaucoup de gens se sauvaient, hein, parce qu'il y avait des prêtres partout, des religieuses partout, et notre Seigneur Jésus-Christ était vraiment reconnu comme roi de la civilisation, de la cité. La règle de saint Augustin est toute simple, les hommes meurent comme ils vivent. L'arbre tombe du côté où il penche. Alors certains pensent que le plus grand nombre se sauve par les sacrements, que beaucoup reçoivent avant de mourir. D'autres pensent que le plus grand nombre se damne, car ils vivent en état de péché mortel. Et en page 29, en haut de la page, vous avez un texte de saint Jean Chrysostome, un grand, grand amoureux du bon Dieu. Dans notre cité d'Antioche, qui contient plus de 100 000 âmes, il prêchait il y a 1600 ans. Dans la cité d'Antioche, qui contient plus de 100 000 âmes, on ne pourrait en trouver plus d'une centaine qui soient sauvées, car il y a une grande méchanceté chez les jeunes et beaucoup d'engourdissement chez les vieillards. Là, il manque un D majuscule, il manque une faute. Il faut que je corrige ça. Vous voyez, ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un saint, saint Jean Chrysostome, un docteur de l'Église en plus. Sur 100 000 âmes, à peine pourrait-on trouver une centaine qui soit sauvée. Ça fait quoi, ça? Hein? Ça fait pas beaucoup. Car il y a une grande méchanceté chez les jeunes et beaucoup d'engourdissement chez les vieillards. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Saint Augustin compare l'Église à une aire de battage sur laquelle il y a plus de paille que de grain, c'est-à-dire plus de réprouvés que d'élus. Les pères de l'Église comparent par exemple les nombres des élus au nombre d'olives qui restent dans les oliviers après la récolte, au nombre d'épis qui restent dans le champ après la moisson. Bon, à l'époque, on moissonnait à la main, je sais bien, mais enfin quand même. N'oubliez pas la petite Jacinthe de Fatima, donc l'apparition reconnue par l'Église en 1917. Qu'est-ce qu'elle a dit après? Les âmes tombent en enfer comme les flocons de neige. En hiver. Et donc, n'acceptez pas la doctrine de ceux qui vous disent « Ces textes sont trop durs, le livre de José Ricard Torrens, du nombre des élus, est un livre janséniste, c'est pour ça que l'abbé Lafitte le propose. » Mais pas du tout, c'est un grand classique. Un grand, grand classique. Un texte de Saint Bède le Vénérable. « La double punition de l'enfer est ici décrite avec le froid et le chaud. » Il y aura des pleurs et des grincements de dents. La chaleur provoquera les pleurs, le froid, le grincement des dents. Le grincement des dents traduit le sentiment d'indignation, car celui qui se repent trop tard est trop tard en colère contre lui-même. Beaucoup également brûlent d'abord de zèle, puis tombent dans la froideur. D'autres sont d'abord froids et deviennent subitement chauds. Beaucoup sont méprisés en ce monde, mais seront glorifiés dans le monde à venir. D'autres sont célèbres parmi les hommes qui seront condamnés à la fin. Vous voyez, comme il faut absolument se rappeler la doctrine traditionnelle de l'Église. Cette doctrine est bien explicitée dans la première partie des exercices de Saint-Ignace. On parle beaucoup de ça parce que c'est nécessaire pour sauver les âmes et rapprocher les âmes du bon Dieu. Après, une fois que les confessions sont faites, on ne parle plus du petit nombre relatif des élus, mais la doctrine demeure. Donc attention, on ne peut pas changer cette doctrine catholique, même si M. Bergoglio prétend que l'enfer n'existe plus. Voilà, donc nous en sommes à la page 29, au verset 31. Donc nous continuerons ce texte ces textes qui sont tellement beaux au prochain cours. Nous allons terminer par une prière. Ça fait déjà une heure que je vous parle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.